Osmose toute la journée, retrouvez les acteurs du off.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du off.
Novotel Avignon Centre avec la web radio Osmose. À mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Pitorin. Ludovic, vous êtes auteur, metteur en scène et vous présentez une pièce pendant le festival off à l'Espace Alia à 21h10, mais on rappellera tout à l'heure. Et ça s'appelle Climax. Alors, vous avez votre flyer, si on le lit, on lit spectacle burlesque musical. N'empêche que vous faites du théâtre, on le qualifie de quoi ? D'engagé ? Vous traitez quand même un sujet bigrement d'actualité, puisque c'est votre spécialité quand même. Vous êtes spécialisé dans les sujets de notre société, en tous les cas, des sujets sociétaux. Et là, on parle de réchauffement climatique, c'est ça, sous différentes formes, puisque le burlesque musical, il est là aussi. Alors, expliquez-nous un petit peu. Oui, burlesque dans le côté farce.
La farce, elle est presque partout, tous les jours, tout le temps. Il suffit juste de mettre les bonnes lunettes pour la voir. Et quand on la lit, quand on la voit, quand on la met sur un plateau de théâtre, elle permet de grossir un peu la situation et de pouvoir en rire. Et c'est pour ça qu'on a utilisé cette façon de faire, c'est-à-dire cette manière de faire, ce que moi j'appelle du musical engagé, c'est-à-dire on mélange les genres et en même temps on prend un sujet fort et on essaye de le traiter avec beaucoup de sérieux, sauf que le spectacle est très drôle. C'est ça la particularité, c'est qu'on rit de choses tristes, on rit d'un œil, on pleure de l'autre et puis on essaye de faire en sorte que le spectateur, quand il repart, il est passé... peut-être une belle heure à rire et une nuit à réfléchir.
Alors, et ce spectacle, il se décompose sous forme de scénettes, c'est ça ?
Oui, alors plus ou moins, c'est-à-dire que c'est construit comme une sorte de road movie, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un équipage, d'une équipe qui accède au sommet du Mont Blanc et qui a comme une prophétie qui lui dit « Vous allez arriver là-haut » et là-haut, dans cette prophétie, on leur dit « Vous allez accueillir un nouveau-né ». Et c'est le nouveau-né qui va arriver, le prochain. C'est-à-dire qu'il y a toujours un prochain nouveau-né. Là. Dans la seconde qui suit, il y en aura un prochain. Et là, ils accueillent ce prochain nouveau-né qui tombe du ciel. Vraiment. Ils l'accueillent. Et puis, dans la prophétie, on leur dit il faudra lui montrer l'étendue des dégâts. Parce que dans un monde en plein bouleversement, il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. C'est la prophétie qu'il leur est donnée. Et eux, ils ont comme pour mission de faire un tour du monde à cet enfant et un tour d'horizon des problématiques qui sont liées à la cause climatique. Alors, ils partent évidemment du côté du Groenland, ils partent du côté de la forêt amazonienne, puis du côté de différentes scènes qui sont très proches de nous, comme par exemple dans une maison de retraite. Et puis, on se retrouve aussi à la COP 34, qui est une sorte d'anticipation des COP qu'on connaît. Et on se retrouve à la COP 34 où là... Évidemment, les politiques sont obligés d'arriver en bouée parce qu'ils ont de l'eau jusqu'au bassin. Et puis voilà, c'est un tour d'horizon comme ça, comme un tour du monde, prétexte évidemment à des scénettes burlesques, mais qui, au bout du bout, sont très grinçantes parce que...
Oui, c'est ça, c'est un peu corrosif, c'est un peu caustique, mais oui. ça contribue à éveiller les consciences des spectateurs, j'imagine.
Oui, en fait...
On peut rire et puis sortir en disant « mais j'ai vu quand même des choses là... » auxquels je n'avais peut-être pas suffisamment songé, pas suffisamment réfléchi. C'est le but aussi.
Il y a de l'ordre de l'intellectuel, c'est-à-dire des choses qui nous amènent une réflexion, puis il y a de l'ordre de l'organique, c'est-à-dire il y a par exemple une scène à un moment donné qui se passe dans l'océan Indien et il y a une tortue qui rentre et la tortue mange un bout de plastique qui tombe et elle sort 100 mètres de plastique de sa bouche. Et ça... je ne pense pas que ça soit très intellectuel comme situation, mais c'est très impactant et le spectateur rit à la fois de l'absurdité de la situation, en même temps à les frissons. On est toujours à la frontière.
Peut-être qu'il se reconnaît aussi dans celui qui a oublié de ramasser son plastique la dernière fois sur la plage.
Ouais.
Et peut-être qu'on peut espérer qu'à la sortie de ce spectacle, il réalise que son grain de sel à lui, c'est justement de ne plus faire ce qu'il faisait auparavant. J'en sais rien. C'est peut-être aussi un peu pédagogique quelque part. Même si c'est pas votre...
Oui, après, le théâtre, les gens nous disent, mais quand vous jouez vos spectacles, est-ce que vous croyez qu'après, il y a une vraie prise de conscience ? Moi, je ne suis pas dans la tête des gens. Oui. Tout ce que je sais, c'est que moi, quand je me suis levé le matin, j'avais cette envie-là de me dire, si je peux, par l'émotion, par le rire et par l'intelligence des spectateurs, faire en sorte qu'il y ait un progrès possible sur des sujets, notamment celui-ci, peut-être que j'aurais réussi ma journée. C'est que ça qui m'intéresse. Après, les résultats, évidemment.
Mais ils sont individuels et ils sont...
Et voilà. Et on voit bien que sur des sujets, la société a évolué. Quand on a monté Manger, notre dernier spectacle, il y a presque 7 ans, la problématique alimentaire était déjà là. Mais la problématique alimentaire, elle évolue. On voit bien que la population fait de plus en plus attention à ce qu'elle mange, la qualité de ses aliments, les circuits courts, tout ça. Sur la question climatique, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience aussi de plus en plus forte de la jeunesse, des adultes, et que finalement, nous, on n'est que des fusibles au milieu de tout ça pour essayer de contribuer, d'amener notre petit grain de sable, soit pour dérailler les rouages dans lesquels nous sommes, soit au contraire pour faire en sorte que, ben voilà, on apporte quelque chose à l'édifice commun et ça donne du sens.
Alors, cette pièce Climax, c'est vous qui l'avez écrite?
Oui.
Mise en scène.
Oui.
On va peut-être un peu parler de ceux qui sont à vos côtés sur la scène, parce que vous n'êtes pas tout seul.
Non.
Donc, on va peut-être faire un rapide ou non pour dire qui ils sont. Alors, vous les connaissez mieux que moi. Je tourne mes pages.
Je vais les présenter parce qu'en fait, on a vraiment une particularité dans la compagnie, c'est qu'on est vraiment une troupe, c'est-à-dire qu'on vit ensemble à l'année. On fait 60, 70 dates par an en tournée avec notre camion. On fait nos montages et nos démontages et notre technique. On n'a pas de régisseur.
D'accord.
C'est-à-dire que toute
l'équipe... Vous êtes extrêmement polyvalent.
Pardon ?
Vous êtes tout à fait polyvalent.
Ah oui, oui. Puis quand vous viendrez voir le spectacle, je pense que vous pourrez revenir le lendemain pour voir ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire que nous n'avons pas de régisseur. Nous lançons toute la technique du plateau, c'est-à-dire la vidéo, le son, la lumière... Et la machinerie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent des cintres, des choses qui tombent sur les côtés. Il y a beaucoup de changements de costumes et c'est...
Il faut que ce soit fait rapidement en plus.
Très rapidement et surtout de manière très subtile et qu'on ne le voit pas. Il y a des gens qui nous demandent combien on est finalement, parce qu'ils ne savent pas, on n'est que 4. Et en fait, on fait beaucoup de choses. Et là, c'est la particularité de la compagnie de travailler comme ça, parce qu'on arrive à une autonomie pour pouvoir jouer partout. C'est-à-dire... Nos tournées, par exemple, c'est on va jouer un soir dans un théâtre en France et puis le lendemain, on va faire 300 km et on va jouer dans un amphithéâtre pour des lycéens. Donc forcément, il faut qu'on puisse être autonome.
Oui.
Vous savez bien que notre économie n'est pas toujours facile dans tous les lieux et on essaye nous de faire
de
en sorte...
De l'acquérir très rapidement et de comme vous dites...
De pouvoir être tout terrain, ce qu'on dit. Voilà.
Oui. En plus d'être comédien aussi.
On s'est formé à ça. Xavier Pierre, pour parler de lui, est technicien lumière et technicien aussi. C'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses de ses mains. Et en plus de ça, il est comédien et danseur, chanteur dans le spectacle.
Parce que vous êtes aussi au sein de la troupe. Vous venez des Deux-Sèvres,
oui,
c'est ça ?
Oui.
Au sein de la troupe, vous avez fait aussi du clown.
Oui, moi j'ai été formé.
Vous êtes comédien, vous avez été formé au clown,
ouais.
Quand même une discipline particulière, le clown aussi.
Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une discipline où on apprend à tout faire. C'est-à-dire le clown, il est danseur. Hein. Regardez Charlie Chaplin, il savait faire beaucoup de choses. La plupart des clowns ont eu des formations très très larges. Et
difficile, hein, le clown. Hein. C'est
de toute façon, faire rire, je vais vous dire une chose, c'est la chose la plus compliquée qui puisse exister. Mais en même temps, ça part aussi de quelque chose de très intérieur, de très sincère. C'est pas du tout fabriqué. Il y a beaucoup de techniques et on a beaucoup travaillé là-dessus et sur le plateau et à côté du plateau. C'est-à-dire que la technique est au service des spectateurs.
Bon, ouais, je pense que les spectateurs qui sont un petit peu rompus à l'exercice de spectateurs. Hein, voit bien quand même, on arrive à voir quand les gens ont fait du clown ou quand je parle en mon cas personnel. Hein, j'aime suffisamment le théâtre et le clown m'intéresse beaucoup, mais je trouve ça redoutable. Mais... Alors, on va parler donc de vos partenaires sur scène. Aline Barré, je prononce bien, j'espère. Benjamin Scampini, Xavier Pierre, vous-même. Et puis, à la mise en scène, Fabien Casso.
Fabien Casso nous a accompagnés dans la mise en scène. C'est un compagnonnage qu'on a eu avec lui. Et voilà, moi, étant sur le plateau aussi, j'avais besoin d'un regard supplémentaire extérieur et c'était un partenaire à la mise en scène.
Patrick Bellan et Xavier Pierre, donc, qu'ils ont noté là sur Accessoiriste. Xavier Pierre est également à la création lumière.
Oui, tout à fait.
Alexandra Maury à la création des costumes. Et ouais. J'ai ouï dire que les costumes étaient très délirants quand même.
Oui, ça part un peu dans tous les sens parce qu'évidemment, on a essayé à chaque fois de dans ce road movie d'avoir vraiment des tenues qui correspondent à la situation. Et donc, oui, on a pas mal travaillé là-dessus.
Et vous êtes aussi à la création vidéo.
Vidéo, oui. Il y a de la vidéo dans le spectacle. Il n'y en avait pas dans le précédent spectacle. Enfin, il y en avait un tout petit peu. Et
c'était important de la mettre ?
Oui, parce qu'il y a une scène finale quand on viendrait voir le spectacle. Et quand ceux qui ont suivi cette émission viendront voir le spectacle, il y a une scène finale qui est un peu le climax, pour le coup, de ce spectacle, qui raconte à Tom, donc cet enfant qu'on a accueilli, comment le monde a évolué en si peu de temps, finalement. Et on lui raconte que cette situation est arrivée en seulement un battement de cils. Dans l'histoire de l'univers, si on regarde l'histoire de l'univers, le moment où on a commencé à réchauffer notre planète, ça représente un battement de cils si on compresse l'histoire de l'univers dans un calendrier. Imaginons que le 1er janvier, minuit, ça soit le Big Bang, et que le 31 décembre minuit, ça soit maintenant, eh bien, si on retrace toute l'histoire de l'univers du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, le temps de la révolution industrielle, c'est-à-dire celle qui nous a mis dans cette situation, dans cette étuve en fait, dans laquelle on est, ne représente qu'un battement de cils, c'est-à-dire une fraction de seconde. Et ça, c'est assez vertigineux. Et pour revenir à la question de départ qui était la vidéo nous aide à faire une sorte de retracer toute l'histoire, et de comprendre que finalement, l'être humain est arrivé très tard, c'est-à-dire à 23h59 minutes, le 31 décembre, nous sommes arrivés. Donc déjà, ça nous replace un petit peu à notre échelle, c'est-à-dire nous sommes à peu près une poussière dans l'histoire de l'univers, mais en même temps, c'est ce qui est beau d'ailleurs. Et après, on se rend compte que dans cette minute-là, dans cette dernière seconde, tout s'est fait très rapidement. C'est-à-dire, si on regarde même l'échelle de l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'histoire, donc les 2000 ans qu'on connaît, finalement, ça ne représente que 2 siècles, la révolution industrielle. Et à partir de là, on se dit, finalement, on est capable de faire, de nous mettre dans une instabilité très rapidement. On est capable d'aller à notre propre perte comme ça, en 2 siècles. Et ça, c'est vertigineux.
C'est très vertigineux.
Et les spectateurs, quand ils ressortent du spectacle, quand on a fait cette scène qui est très impactante pour lui...
Il en prend conscience peut-être.
Ça ne rit plus du tout là. Là, c'est un rire...
Mais c'est, c'est le côté grinçant de votre spectacle. Parce que c'est aussi votre marque de fabrique.
Oui.
Un peu de caustique, un peu de la fantaisie bien entendu, mais marqué sous un sceau... une marque de fabrique.
Oui, on n'oublie pas le pourquoi on est monté sur scène. C'est-à-dire que nous, notre objectif, ça a été de mettre des frissons et de rire et des vrais frissons d'émotion au spectateur. Et donc, on a les deux entrées. Et si on n'a pas eu ces frissons de ce caractère vertigineux dans lequel nous sommes, il va manquer quelque chose. Et pour avoir beaucoup lu sur ce sujet-là, je peux vous dire qu'on passe par plein d'états. Notamment des états pas dépressifs, mais où on se dit waouh, quand même, c'est plus que vertigineux en fait ce qu'on va vivre et ce qu'on vit déjà. Donc, comment retranscrire ça à des spectateurs sans partir dans des théories collapsologistes, parce que là, à ce moment-là, on n'a plus d'espoir, on n'a plus rien.
Ni moralisateur, j'allais dire, parce que sinon, ils ne viendront plus vous voir.
Ils ne viendront plus vous voir, puis je ne crois pas que ça soit le but du spectacle. Hein. C'est plutôt. Moi, je dis souvent, quand je tracte avec les gens, je dis. Peut-être ce spectacle permettrait d'être un peu plus fort en sortant qu'en étant rentré. Peut-être fort, parce que le théâtre, c'est assez magique.
Mais c'est aussi une des définitions du théâtre aussi, parmi les innombrables définitions qu'on pourrait en donner.
Parce qu'il y a un truc comme ça qui est suspendu dans le temps, et ça s'appellerait peut-être le silence du spectateur, qui, à un moment donné, partage la même chose, la même émotion, face à des gens qui se sont produits devant eux. Et ce temps-là, moi, je ne le retrouve jamais. À part des fois dans une église, je trouve que le temps se suspend. Je ne suis pas croyant, mais des fois, je trouve qu'il y a des temps incroyables comme ça, parfois devant un film. Mais il y a très peu de moments dans la vie comme ça où on est tous face à la conscience partagée d'une situation et on a une émotion qui nous traverse et on a du mal des fois à la qualifier, mais en tout cas, ça s'est passé. Et ça, rien que pour ça, pour moi, le théâtre, ça a toutes les vertus du monde et c'est pour ça que j'aime tant mon métier parce que je trouve qu'il a un vrai sens et parce que ce temps-là suspendu permet quelque chose. Et après, bah, les gens, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. Ils vivent ça de manière très différente.
Mais déjà, vous en parlez tellement bien qu'on on vous écoute attentivement. Et moi, j'aime bien quand on parle du théâtre comme vous le faites. Vous portez votre spectacle, vous l'avez écrit, vous en parlez magnifiquement. Donc, on est déjà conquis. Et puis, on se disait tout à l'heure hors antenne, moi, je trouve aussi que le théâtre... Oui, bien sûr, on peut passer un excellent moment devant une comédie gentillette, entre guillemets. Moi, j'aime bien qu'on me bouscule aussi un peu. Je vous disais, même si je sors en ayant la sensation de ne pas avoir tout compris, je suis certaine que ça m'a suffisamment dérangée pour que ça fasse son chemin. Et ça fait son chemin et ça reste, en fait. Et ça contribue aussi à peut-être... à ce qu'on aille mieux ou à ce
ça y contribue. Et sur la question de tout comprendre, j'entends souvent ça des spectateurs qui essayent de tout comprendre. Je crois que dans nos sociétés, il faut arriver à comprendre que nous ne sommes pas que des cerveaux.
Mais c'est important de le dire.
Nous avons des organes, et nous avons un ventre, nous avons un cœur, nous avons des poils, nous avons tout ça. Et tout ça, ça existe. Et, que nous avons, et c'est
et
un moyen...
Des zygomatiques aussi des qu'on peut relâcher et ils servent à
et
ça.
Et ce n'est pas que le cerveau qui réagit, c'est tout le corps qui réagit. On le sent bien, on le sait bien d'ailleurs. Mais parfois, c'est ça en fait. Il faut laisser aller les choses et notre cerveau fera le boulot. Il est là pour ça. Mais quand on arrive à être détendu face à ça et pas être comme on nous a éduqués finalement à être des petits soldats un petit peu de l'intellect. Et ça, c'est très bien. L'intelligence est formidable. Heureusement qu'elle est là.
Oui, mais, c'est, oui, mais, certes, mais ça n'est pas suffisant. Elle ne suffit pas.
Non,
voilà,
ce n'est pas suffisant. Mais bon, c'est comme ça. On a été formés comme ça. Il faut se déformer comme il faut certainement reconstruire les pensées dans lesquelles nous vivons pour pouvoir reconstruire un monde qui soit plus soutenable. De toute façon, on n'aura pas le choix.
Oui, et puis je pense que ça restera... Bon, là, c'est Climax que vous avez déjà joué. Ce n'est pas votre première fois à Avignon, vous êtes déjà venu. Climax, il a déjà été porté ailleurs. Il sera encore porté ailleurs, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que les pros étaient là quand même.
Oui, on a beaucoup de chance.
Bon accueil et du public et des pros.
Ouais.
C'est quand même pour vous le plus important.
Ouais,
vous avez besoin de nous aussi. Hein,
ah bah, on a besoin des deux. Quand on a les deux, on est content.
Voilà, c'est ça.
On est content parce que ça nous promet de belles tournées, de pouvoir raconter cette histoire partout en France. On fait le Tour de France tous les ans. Alors, on n'a pas un très bon bilan carbone. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas trop aligné sur tout ça. Mais on sait que derrière tout ça, on a quand même des choses à raconter. Donc, on arrive à être à la hauteur de ce sujet-là. Et même à l'intérieur même de nos tournées. Je parle de ça parce que j'en ai parlé avec un spectateur l'autre jour qui me demandait, est-ce que vous êtes à la hauteur de vos idées, finalement? Comment vous faites, vous? Ben, je lui dis, quand on demande un catering dans la loge, on demande un catering local. On demande un catering sans plastique. On emmène nos gourdes dans les coulisses. On n'a pas de petites bouteilles d'eau. On essaye d'être vertueux, nous aussi. C'est-à-dire, en gros, de se poser toutes les questions qui fait que le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. C'est celui qui n'existe pas. La valorisation demain d'un bilan carbone un peu plus vertueux, ça sera de dire, j'ai acheté sur le marché mes fruits ou mes légumes et je n'ai pas acheté des choses qui ont fait 10 fois le tour de la planète.
Oui, en plus un emballage plastique par dessus.
Voilà, et je parle de ça parce que je trouve que c'est aussi important qu'on soit nous-mêmes à la hauteur de questions qu'on porte. Quoi.
Enfin, tout à fait, mais vous avez là un discours qui ne peut que nous plaire, en tous les cas nous toucher, la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, ça s'appelle Climax. Vous jouez tous les jours à l'Espace Alia à 21h10. La prochaine relâche,
c'est lundi prochain.
C'est lundi prochain et lundi 26. En fonction de ce qui vous arrive et qui nous arrive à nous aussi, puisqu'à partir du 21, vous allez être soumis, comme tous les autres, à des contrôles un petit peu sévères quand même, puisqu'on vous dit des passes sanitaires et que l'Espace Alia fait plus de 50 places. Mais bon... Vous allez vous organiser, vous n'avez pas le choix.
J'ai envie de dire, on ne maîtrise plus rien à partir du moment où on est là. Nous, on est là pour jouer et faire en sorte que la salle soit pleine et qu'on ait des professionnels et qu'on raconte nos histoires. À partir du moment où on dit aux gens, il vous faudra soit être vacciné, soit avoir un test négatif, ceux qui pourront le faire viendront, ceux qui ne pourront pas, ils ne viendront pas. Enfin, c'est aussi bête que ça.
Oui.
Donc on va perdre, on le sait, entre 20, peut-être 30, 40% du public. C'est presque sûr. Donc, nous, la perte sèche financière.
Oui, parce que vous avez engagé des frais. On peut le dire quand même, toutes les compagnies engagent des frais qui ne sont pas des petits frais.
C'est
quand même des sommes astronomiques. et que je trouve quand même, on n'est pas là pour parler de ça, mais mettre cette annonce le 12 juillet et vous demander d'être prêt le 21, alors qu'on sait que c'est complètement irréalisable. Là, en si peu de temps, déjà la vaccination, c'est très difficile.
Oui, puis comment ça va être contrôlé? Enfin, je veux dire, le préfet a dit le masque est obligatoire de 12h à 2h du matin. Il faut considérer déjà qu'avant 12h, le Covid, il dort. Hein, parce que déjà, il faut m'expliquer pourquoi avant 12h, bon, bref. Personne n'a le masque dans Avignon. Promenez-vous à Avignon. Je veux dire, au bout d'un moment, ou bien on met des règles ou on ne met pas des règles. Si le pass sanitaire, c'est la même chose, ça va être du grand n'importe quoi.
On est d'accord.
Je veux dire, il faut juste être cohérent. Moi, je suis d'accord pour mettre le masque. Il n'y a pas de problème. Je tracte avec le masque toute la journée parce que cette règle-là, je l'accepte parce que je sais derrière que il y a des conséquences. C'est-à-dire que si demain, on a un cluster à l'espace Alia, c'est tout le monde qui s'arrête.
Voilà, tous les comédiens ne pourront plus jouer. Plus personne ne joue.
Allez, ça dure un mois. On a de la chance, Stan, il ne fait pas trop chaud à Avignon. C'est pénible. Tout le monde en a ras-le-bol de ce truc. Mais faisons-le. Et puis voilà, au moins, on va continuer à travailler. Parce que sinon, on va être encore en septembre à se dire, on va encore annuler, reporter. On n'en peut plus.
Enfin, et nous non plus. Les spectateurs non plus. On souffre aussi.
Tout le monde souffre.
Tout le monde souffre. Et c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile, pas les bonnes conditions de... Enfin, bon, on revient quand même au spectacle qui s'appelle Climax. Moi, je suis très contente de vous avoir reçu, ça passe très vite, hein, les entretiens. À l'espace Alia, donc tous les soirs, à 21h10.
Oui.
Et on vous souhaite... Le succès, il est là déjà. On vous le souhaite encore un petit peu plus fort de tourner à travers la France, la Navarre et l'étranger aussi, non?
Oui, on tourne beaucoup à l'étranger. Avec notre précédent spectacle, on a dû faire... On a traduit le spectacle en catalan. Déjà, on a joué en Catalogne sur toute une tournée. On a joué beaucoup en Suisse, en Belgique, à La Réunion, en Tunisie. Là, on a encore des programmateurs qui viennent de l'étranger qui veulent nous programmer aussi là-bas. Et donc, on fait attention, évidemment, à ce que ça soit cohérent aussi, parce qu'aller jouer une date très loin, ça n'a pas trop de sens. Par contre, si c'est sur une tournée ou qu'on peut rencontrer des jeunes, faire des bords de scène, on fait beaucoup de bords de scène après les spectacles pour discuter avec le public sur la problématique. Et on essaye de faire en sorte que ça puisse, on puisse en parler et trouver des débuts de solutions ensemble. Ça nous porte vraiment. Et puis, on fait le Tour de France aussi. On a déjà plus de 50 représentations de Calais, alors que le spectacle n'a pas commencé sans Avignon.
Et quand on a porté cette pièce que vous maîtrisez bien maintenant, vous êtes déjà en train de réfléchir à la prochaine ?
Je vous avoue que
plus ou moins.
Ce spectacle, ça a été pas une épreuve, mais ça a été long à monter. Je pense que j'écris 3 spectacles pour en faire un. L'éponge est un peu vide.
Oui, mais elle a besoin de
j'ai besoin de régénérer. Voilà, j'ai besoin de jouer, déjà de profiter de cet accouchement qui a été un peu long, la gestation était un peu longue. Et maintenant qu'on a réussi à accoucher ce spectacle et qu'on vit quelque chose de fort avec le public, on va profiter de ça. Et puis après, on se lancera dans une autre aventure. Mais encore faut-il trouver...
C'est pas les idées qui manqueront. Si vous êtes sur les sujets sociétaux, il y en a suffisamment pour.
Mais
vous avez raison. Je pense que c'est bien aussi maintenant de jouer, de profiter du jeu, du public, de la scène, de tout ça aussi.
Oui, et puis trouver les moyens d'être pertinent en tournée. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de me dire, ok, jouer c'est bien, le public il vient, on applaudit, c'est super. Moi je trouve ça très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer pour des jeunes? Et pourquoi on parlerait pas avec le public d'une autre manière? Est-ce qu'on n'irait pas jouer ici? Là,
dans les milieux carcéraux?
Mais partout, si vous voulez, ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'est l'éducation populaire, qui n'existe plus.
Oui,
voilà. Moi, je suis de la tradition de Jean Villard, j'ai été formé par des gens qui considèrent que le théâtre est un théâtre qui va au-devant des gens, et qui questionne, et qui est généreux, et qui est en contact avec le public pour raconter des histoires. J'ai pas envie juste d'arriver dans ma loge et de repartir le soir dans mon hôtel, ça m'intéresse pas vraiment ça. Ce qui m'intéresse,
l'échange et le partage.
Et c'est ce qu'on vit avec notre troupe et on a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de travailler avec des gens depuis presque 20 ans, les mêmes presque, à part Aline qui nous a rejoints.
Carrément une famille, quoi.
Oui, on est une famille, mais vraiment, on vit comme une troupe. Ouais.
Donc, on le redit une dernière fois, c'est la compagnie Zygomatique qui présente Climax, alors annoncé comme un spectacle burlesque musical. Parce qu'on rit aussi, hein, parce que le rire est une chose sérieuse, c'est vous qui le dites aussi. Hein,
moi, je dis, j'aime bien dire le rire du ventre éclaire le cerveau dans nos spectacles. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui sert aussi. C'est-à-dire, le rire organique, il permet des fois de faire en sorte que ça remonte un peu au cerveau et que ça permette voilà, de créer des connexions qu'on n'aurait pas imaginées avant.
Et puis c'est à peu près aussi comme chanter, hein, quand un bon rire, ça ouvre la colonne d'air,
on est
tout de suite mieux. Hein.
C'est ça.
Donc c'est à l'Espace Alia à 21h10, du 7 au 30 juillet, vous arrêtez le 30.
Oui.
Les prochaines relâches, ce lundi 19 et lundi 26. Merci d'avoir été avec nous pendant ce petit instant. Une autre fois, à nouveau, vous reviendrez. Là, encore une fois, le succès pour vous, qui est déjà là, mais qui va s'amplifier. Je vous souhaite un bon festival et je vous dis à très vite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.